Oui, à propos de l'éducation très, très tôt, peut-être certains d'entre vous ont déjà vu le film extraordinaire de Deborah Chesnoff qui est passé à Cinéfable, It's Elementary et It's Still Elementary. Il y a deux films en réalité. Et c'est le film, le documentaire sur comment on peut parler de l'homosexualité dès l'école élémentaire, maternelle et élémentaire. Ça a été fait aux États-Unis. Et non seulement c'est absolument incroyable comment les enfants ont été bien réceptifs et comment c'est montré dans le film, comment il a fallu évidemment se battre aussi avec les institutions, les parents, etc., pour que ce débat soit autorisé. Et ensuite, elle a tourné ces enfants-là quand ils sont devenus jeunes adultes. C'est-à-dire, c'est toujours élémentaire. C'est le jeu de mots sur c'est élémentaire. Et vraiment, si vous voyez passer dans un festival ce film ou ce double film, n'hésitez pas, parce que c'est c'est CQFD, quoi. Vraiment, on comprend que... C'est vraiment, il faudrait faire une action dès la petite enfance, c'est clair. J'enfonce une porte ouverte en disant ça.
Merci. Quand tu as parlé des réactions là, des enfants, c'était des réactions mixtes? Quand tu parlais justement, le plan A3, etc., là j'imagine que c'était plutôt les garçons.
Oui, donc ça, le plan A3, c'est les garçons. Et par contre, sur le sexisme, effectivement, je n'ai pas précisé, mais les garçons comme les filles sont dans la même situation. Des fois je sens bien, c'est pas dit comme ça, mais que ils sont tout à fait d'accord, garçons et filles, pour dire que le corps d'une femme c'est au service du plaisir d'un homme, et on sent presque que les jeunes filles elles ont envie de découvrir la sexualité avec un homme. C'est pas dit, bien sûr ils ne parlent pas comme ça, mais elles sont aussi actrices de ça, elles sont aussi dans ce rôle là qui est imposé par cette société, elles jouent aussi ce jeu là, pas toutes hein. Ça, c'est des réactions. Heureusement que ce n'est pas toute la classe qui est comme ça. Mais quand même.
D'accord. Et le dégoût, quand tu disais deux hommes ensemble, c'est dégoûtant. C'est plutôt les garçons qui disent
ça. Ça, c'est les garçons.
D'accord. Ouais. Et les filles, est-ce qu'elles disent la même chose par rapport aux femmes?
Non, les filles, globalement, elles posent beaucoup moins de questions directes sur la sexualité. Parce que là, quand ils disent les garçons, deux garçons ensemble, c'est dégueulasse, ils parlent toujours de la sodomie. Hein, c'est ce qu'il y a derrière. Donc les filles, elles parlent moins de ça. Il y a l'histoire des petits bisous, là, qui est toujours présent. Et elles sont pas dans cette position-là. Moi, je trouve que globalement, les filles ont beaucoup moins de réactions. Elles disent qu'elles aiment bien les gays, elles disent qu'elles ont des copines lesbiennes, qu'elles ont quelqu'un dans leur famille. Elles ont beaucoup moins de réactions homophobes, dans le sens général, quoi.
Merci.
Sauf qu'il y a de la négation. Ça les gêne moins, c'est moins violent, quoi.
Moi, je crois que SOS homophobie, c'est aussi une ligne d'écoute.
Oui, c'est une ligne d'écoute. Mais j'en ai parlé un petit peu au début. Hein. Cette ligne d'écoute, elle recueille les témoignages et c'est vraiment une fenêtre là, sur l'homophobie, avec ce rapport qui, après, fait des statistiques qui rentrent dans le débat public, bon, comme ça peut être fait aussi avec d'autres associations. Et c'est un outil important de l'association.
Est-ce que à SOS Homophobie, à des moments donnés, vous faites des débats non mixtes? Et est-ce que vous essayez de proposer des thématiques qui ne sont pas directement tout de suite là-dessus, mais sur discrimination, sur sexisme? C'est-à-dire, est-ce que vous découpez les thématiques qui font que les pré-ados ou les ados Parce que c'est vrai que aller directement sur homophobie, donc on va directement sur les gays, donc il va falloir préciser lesbophobie. Puis c'est difficile quand les ados sont pas encore construits ou qu'ils veulent pas dire aux autres. Toutes ces choses-là, sur le non-dit, sur ce qui est en dessous dans le silence, l'histoire des petits papiers. Est-ce que tu pourrais reprendre un peu là-dessus?
Alors, donc là tu parlais à l'école, hein. Donc à l'école, nous, on se présente toujours, un peu comme j'ai fait la SOS homophobie, très vite. On parle de lesbophobie, gayphobie, on définit, on fait du vocabulaire avec eux. Ça, c'est fait systématiquement. On est toujours, nous, en binôme mixte, autant que possible, hein, en fonction des bénévoles, donc c'est en fonction des disponibilités, mais on est toujours en binôme mixte. Et effectivement, toujours vient la problématique des gays, c'est ce qui vient toujours en premier, mais on ramène toujours sur le sexisme, sur les lesbiennes. Et puis, dans les petits papiers, ils posent vachement de questions. Et ils posent des questions aux personnes qui sont là. Ils disent aussi qu'ils sont très contentes de rencontrer des gays ou des lesbiennes en vrai. On n'est plus des fantasmes, on est des vraies personnes qui venons les voir, qui allons dans les écoles, qui les laissons parler, qui les laissons s'exprimer. On est sympa, on parle de tout, on parle de sexualité, donc on ne laisse pas le vague mot homophobie. Juste quand on parle au début justement du terme phobie, et qu'on explique ça, qu'est-ce que c'est une phobie, d'où ça vient, et est-ce que c'est, quel ressort, c'est quoi le ressort de la phobie. Ben. Mais sinon, on est quand même sur les catégories. Beaucoup. Donc on a un gros chapitre sur la transidentité, par exemple. Ça, c'est un truc qu'ils apprennent beaucoup, là, et ça les interroge énormément. Mais c'est très intéressant.
J'ai juste une question complémentaire, si je peux me permettre, au milieu. Sur le fait qu'on a, justement, avec les petits papiers, après l'échange, est-ce que lesbophobie, le mot, pour faire le lien à ce qui a été mis, convient ? Enfin, est-ce que, en fait, il te semble intégré, ou est-ce que, au fond, pas du tout ?
Non, ils connaissent pas du tout. Déjà, ils connaissent pas du tout ce mot-là. Et après, nous, on a, au dehors des petits... Ils parlent toujours d'homophobie, dans les petits papiers. Et à la fin, on a aussi un questionnaire d'évaluation. On leur demande s'ils ont compris ce que c'était que la gayphobie, la biphobie, la transphobie. On parle des bi aussi, de la bisexualité. Et là, on sent quand même qu'ils arrivent à faire la distinction, mais ils sont jeunes, donc c'est du nouveau vocabulaire. Ils manient pas ça très facilement, mais on est assez lourd là-dessus.
Bonjour, je suis militante aussi à SOS Homophobie. J'ai fait aussi quelques interventions dans les écoles et je pense que plus on ira voir les jeunes et plus les mentalités changeront parce qu'en fait, ils entendent que les paroles de leurs parents, de tout ce qu'on entend à la télé. Et je pense que plus on ira dans les écoles et on leur montrera ce qu'est qu'on est des êtres humains comme les autres, mieux ça sera, je pense.
Oui, c'est souvent une réaction des jeunes, parce qu'on dit, nous on n'arrive pas en disant bonjour, je suis lesbienne, je vais vous parler de lesbophobie. On le dit pas. Mais au bout d'un moment, dans l'intervention, ça sort, c'est dit. Et moi, je fais des interventions avec un copain, Alain, qui est un retraité de l'éducation nationale, et les jeunes, ils disent, ah vous, monsieur, vous le faites trop pas. Et c'est extraordinaire, ils disent, non, vous, madame, vous êtes lesbienne, j'y crois pas. Et donc, une espèce de d'un seul coup d'une incarnation, et c'est vrai que c'est fort pour eux, ils sont c'est la rencontre.
Moi, je voudrais juste apporter un témoignage comme quoi effectivement plus on commence jeune, mieux ça vaut. Quand j'ai quitté la région parisienne la dernière année, un jour une élève m'a dit, est-ce que je peux vous poser une question madame, vers la fin de l'année. J'ai dit oui, vas-y, je verrai si je peux répondre. Et elle me dit, madame, est-ce que vous êtes Gwyn? Alors j'ai pris le mot en plein estomac, devant ma classe quand même, et tout le monde savait à l'école, enfin j'ai jamais caché que j'étais lesbienne, j'en ai jamais parlé devant mes élèves. Donc là, la question était directe, alors on a discuté avec les élèves, qu'est-ce que ça voulait dire? Je dis, mais qui est-ce qui sait ce que ça veut dire le mot Gwyn? Évidemment, personne dans la classe, donc on a parlé lesbienne, sapho, etc. Et j'ai dit, c'est deux femmes qui aiment deux femmes. Et tous les enfants très très bien acceptés, personne n'a eu de... d'agressivité. Il y a même un petit garçon qui m'a regardé, il a dit, ça doit être bien d'avoir deux mamans, madame.
Quel âge ils avaient ?
Sixième. Ceci dit, je ne sais pas comment réagissent mes troisièmes qui sont plus dans la sexualité. Les sixièmes ne sont pas encore vraiment dans la sexualité.
D'autres remarques ? Alors, s'il n'y a pas d'autres remarques, on va passer peut-être à... Bernadette pour l'autre cercle et l'homophobie au travail.
Merci. Alors, je voudrais repréciser que je suis adhérente au CEL à Marseille, Association féministe et lesbienne, et c'est principalement au nom de cette association que je vais intervenir. Alors, je m'appuierai bien sûr sur mon expérience professionnelle de consultante en ressources humaines, mais aussi sur mon expérience associative au sein de l'autre cercle qui lutte contre les discriminations liées à l'orientation sexuelle en entreprise. Et dans ce cadre-là, j'ai rencontré pas mal de chefs d'entreprise, de directeurs de ressources humaines, directrices de ressources humaines. Et je m'appuierai bien sûr sur les quelques enquêtes qu'on a sur la lesbophobie. Il n'y en a pas beaucoup, mais c'est un progrès. parce que au moins ça permet de penser l'articulation du sexisme et de la lesbophobie dans le monde du travail, que je qualifierais d'inégalitaire, sexiste et hétéronormé, dans le sens où l'hétéronormativité produit des normes autour de l'hétérosexualité, présupposant une correspondance étroite entre le sexe biologique, le genre et les comportements professionnels. C'est non seulement la primauté de l'hétérosexualité, mais celle de l'homme viril et de la femme féminine. Alors, un mot sur le milieu du travail. Le milieu de travail, c'est pas seulement un lieu de production technique, une expression des savoir-faire. C'est un foyer important de sociabilité où se nouent des relations de toute nature, et ces relations sont parfois très importantes pour les personnes. C'est un lieu où circulent des informations sur la vie privée, que ça soit dans le cadre de ces relations amicales, mais aussi dans le cadre de la gestion des ressources humaines, où sont pris parfois en compte certains paramètres individuels pour pouvoir bénéficier d'avantages sociaux, je pense aux mutuelles, etc. Il y a donc une porosité entre la vie personnelle et la vie professionnelle. Et l'orientation sexuelle, contrairement à d'autres identités stigmatisées, n'est pas forcément directement observable. Donc les lesbiennes, comme les gays d'ailleurs, à un moment donné, vont être impliquées dans un processus de décision concernant soit la divulgation, soit la dissimulation de leur orientation sexuelle. Et ce n'est pas une décision facile, et les conséquences peuvent être importantes. Bon, ça ne se passe pas toujours mal, mais en tout cas, c'est redouté. Et les conséquences peuvent porter, bien sûr, sur le plan personnel, social, mais aussi économique. Alors l'entreprise, malgré, on le sait, un arsenal juridique très important, reste un milieu très inégalitaire. Je ne veux pas rentrer dans les statistiques, mais il n'y a qu'à regarder les statistiques sexuées de l'emploi, autant verticales qu'horizontales, pour s'en rendre compte. On ne peut pas penser l'intégration des femmes au sein des entreprises, des institutions, sans repérer que ces organisations ont été pensées, créées et modélisées sans elles. D'ailleurs, il y a peu de recherches sur le genre en entreprise, alors qu'il y a plein d'autres recherches sur les entreprises, dans les entreprises, sur les enjeux de pouvoir. Sur le genre, il n'y a pas grand-chose. C'est la mise en avant de la neutralité, gage d'objectivité, l'éviction de l'appartenance sexuée des acteurs et des actrices qui ont permis d'éluder la question du genre. Or, l'entreprise n'est pas un lieu neutre, attaché aux seules compétences d'un travailleur ou d'une travailleuse asexuée. Non seulement elle n'est pas neutre ni asexuée, mais l'asexualité, en tant que représentation de la féminité et de la virilité, y structure la hiérarchie et les postes. Elle fabrique du masculin et du féminin avec toutes les assignations qui lui sont attachées et façonne les discours et les compétences. Ce qui est important dans l'entreprise, c'est d'être bien identifié dans son genre. D'ailleurs, on voit comme les femmes peuvent faire attention à bien respecter ces assignations de genre, que ce soit dans les tenues vestimentaires ou quand on interroge les femmes, ça a une importance, beaucoup plus importante que chez les hommes, mais aussi dans les comportements, dans le langage et dans les postures. Et déroger à ces schémas, c'est prendre le risque de l'illégitimité personnelle, mais aussi de l'invalidation professionnelle. Parce que pour que les qualités dites masculines restent masculines, encore faut-il quand même qu'elles soient plutôt exercées par les hommes. Sans ça, comme le formule un peu Fassin, l'inconvénient du non-genre, prévaut sur l'atout de performance. Alors, les femmes vont, et les lesbiennes, bien sûr, vont développer des stratégies d'adaptation au regard du genre pour s'intégrer dans les entreprises. Les stéréotypes exercent des contraintes fortes sur les comportements professionnels avec une attente différenciée en termes de complémentarité à l'intérieur de chaque classe sociale. Ce qui forme, en fait, comme le dit le sociologue Goffman, une espèce d'arrangement des sexes qui entraîne une dynamique de recomposition incessante autour de la domination masculine. Il y a en fait des mécanismes d'opposition, mais de collusion également. Et pour que la domination masculine persiste, le système est tellement fort qu'il entraîne une espèce de complicité des femmes pour le maintenir. Et ce système d'aliénation est particulièrement important parce qu'il va puiser sa force, à mon avis, dans un système imaginaire auquel participent autant les hommes que les femmes, d'ailleurs. Ce qui fait que, avec le genre, les femmes jouent du genre, font du genre, et malheureusement en sont le jouet. Parce qu'effectivement, ça peut être efficace de respecter les codes du genre, mais c'est très fragile. Alors, c'est ce qui est compliqué, c'est qu'il y a une espèce d'interaction, de complémentarité dans ces jeux-là. Alors, on assiste à deux types de discours, celui de la féminitude, qui va se fonder sur le maintien des stéréotypes en termes de spécificité féminine. C'est la fameuse valeur ajoutée des femmes qu'on retrouve dans les expressions de management féminin, ou celui de la virilitude qui se construit bien sur une équivalence avec les hommes, mais sans que les normes en soient changées. En fait, c'est le discours de l'exception. Ces femmes sont mises à la marge de la catégorie femme, pensées encore en opposition à la catégorie homme. Alors, dans une étude canadienne, on a bien analysé le coût de la transgression du genre. En fait, ce qui revient souvent dans les stéréotypes, c'est l'efféminement des gays et la masculinité des lesbiennes. Le stéréotype de l'inversion du genre agit vraiment comme un marqueur de l'identité lesbienne qui est à la fois repérable et jugée outrancière. Avoir l'air masculin, ça voudrait dire qu'on est lesbienne. Ça permettrait de distinguer les femmes hétérosexuelles et les femmes lesbiennes. Et cette masculinité, d'ailleurs, est rarement là associée à des qualités positives. C'est la violence, c'est le corps négligé, c'est la dureté, etc. Et c'est vrai qu'il y a des phrases qui se veulent des compliments et qui stigmatise en fait bien la transgression du genre. Voilà, on les retrouve dans ce que tu disais tout à l'heure, ben toi ça se voit pas, tu t'habilles en femme, t'as l'air d'une femme, et ça passe très bien. En fait, ce qui semble difficile d'accepter, c'est pas tant la différence sexuelle, mais c'est que cette différence soit visible. Voilà. On dira peut-être un mot tout à l'heure, parce que c'est important, en s'appuyant sur les études de l'autre cercle et de la HALDE. C'est la pertinence de la variable femme-homme dans les études sur la discrimination et l'orientation sexuelle, parce que l'expérience des gays n'est pas la même que celle des lesbiennes en raison de l'appartenance de sexe. Alors, je vais citer deux ou trois chiffres, je ne vais pas en citer beaucoup, mais quand même, je les trouve parlants. Alors, je fais la référence à l'étude menée par Falkos pour la HALDE en 2006. 54% des femmes contre 12% des hommes ont ressenti une discrimination liée à leur sexe. 37% des femmes contre 20% des hommes ont ressenti une discrimination liée à leur apparence physique. Et 43% des femmes contre 30% des hommes ont ressenti une discrimination liée à leur âge. Bon, on pourrait ajouter des indicateurs, hein, ça va dans le même sens. Ce qui est important de remarquer, c'est le poids de la domination masculine qui va faire entrer les femmes plus tôt, avec plus d'intensité, dans le cadre des multidiscriminations. L'autre cercle va dans le même sens. La discrimination en tant que femme est ressentie plus fortement qu'en tant que lesbienne. L'invisibilité des lesbiennes, 2 femmes sur 3 contre 1 gay sur 2. Et ça, c'est corroboré par d'autres études où la visibilité des gays en entreprise est plus importante que celle des lesbiennes. Et on ne peut pas ramener ça à des problèmes de maturité personnelle, puisque dans le champ amical et dans le champ familial, c'est les mêmes chiffres. Les interrogations sur la vie privée sont plus importantes pour les femmes que pour les hommes. À noter aussi qu'en cas de lesbophobie, il n'y a aucun ou peu de soutien des collègues masculins, alors que c'est le contraire pour les femmes. Et ça me fait penser vraiment à ce qui se passe dans le cadre des promotions professionnelles, où on parle pour les femmes de plafond de verre, qui est bien alimenté par les hommes, alors que de l'autre côté, pour les hommes, on parle d'ascenseur social. Et ça, c'est les femmes qui le font. Et moi, j'ai rencontré beaucoup d'hommes qui m'ont dit, c'est grâce à mes collègues féminines qui m'ont dit, mais positionne-toi sur ce poste-là, alors qu'elles en avaient tout à fait les compétences. Enfin, contrairement aux gays, où on peut avoir des stéréotypes positifs, pour les lesbiennes, on n'en a pas trouvé. Voilà, donc on parlera peut-être après de...
Alors moi, je vais rebondir tout de suite sur l'intervention de Bernadette. Je ne me trompe pas de prénom ?
Non, c'est pas Geneviève.
C'est bon. Parce que Bernadette, un jour, a écrit quelque chose dans un texte qui m'a tellement éclairée. Elle a expliqué que ce qu'elle vient de dire, mais je le reprends, c'est que dans un cas de lesbophobie au travail, la lesbienne qui est victime de harcèlement et de tout ce qui va avec, elle n'aura soutien ni des femmes, ni des gays, ni des hommes. Un homme qui est victime dans son travail d'homophobie, il va avoir le soutien des femmes. Pas celui des gays, mais il va avoir celui des femmes. Ça m'a un peu bouleversée, d'autant que dans le même temps, sur un cas que nous étions en train de... Il y a une jeune femme qui est venue nous trouver en disant « Je veux vraiment faire une action contre mon employeur, je ne veux pas faire un procès. Moi, je veux être reconnue pour ce qui s'est passé. » Et qu'est-ce qui s'est passé ? Elle était dans un service, elle était en CDD dans un service un peu compliqué, dans une compagnie d'assurance, une banque. Et c'est un service qui fait un peu corps, vous savez, c'est difficile de s'insérer. Et elle, alors que toutes ses précédentes intérimaires ou personnes en CDD étaient parties parce que rejetées par ce corps extrêmement fermé, elle-même avait réussi à s'insérer. On l'aimait. On s'était habitué à elle, si bien qu'on lui promettait un contrat à durée déterminée. Et un jour, elle est un peu triste, et une de ses collègues, dans ce service, il y a des femmes et un gay. Un gay qui ne fait pas parler de lui, qui est bon, voilà. Et un jour, une de ses collègues voit qu'il est un peu triste, et cette collègue soutire des confidences. Vous savez comment on peut le faire, mais qu'est-ce qui ne va pas, et tout ça. Et... elle dit, écoute, je me sens pas très bien. Il y a une telle, elle me, enfin comme les choses qui se passent entre personnes. Une telle m'a dit si, elle me regarde plus. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Enfin, les choses habituelles de travail. Et cette collègue lui met dans la bouche, c'est peut-être parce que tu es lesbienne et que ou t'es peut-être bi et qu'elle a senti ton attirance. Elle lui met ces mots dans la bouche. Elle lui propose ces mots-là. Et l'autre dit, peut-être, peut-être pas, j'en sais rien. Elle-même ne s'identifiait comme rien du tout à l'époque, cette jeune femme que nous avons soutenue. Et à partir de là, la rumeur va se déclencher de façon extraordinaire. On ne va plus venir manger avec elle, on ne va plus jamais l'inviter. Une autre, elle est dans un bureau de 2 places, il y a deux bureaux. Une personne qui entre refuse de se mettre dans son bureau. On ne lui parle plus, on ne la regarde plus. Et son CDD qui était convenu, c'est terminé. Elle a mis 2 ans à comprendre. Alors, le gay qui était là, rien. Les femmes, et toutes les femmes se sont vraiment liguées contre elle. Et elle a mis 2 ans à s'en sortir, c'est-à-dire qu'elle a fait une grosse dépression. Et un jour, en rencontrant par hasard une de ses anciennes collègues, cette ancienne collègue d'un service d'à côté lui a dit « Mais t'as vu ce qui s'est passé dans le service, hein? Franchement, dès que leur rumeur a circulé que tu étais lesbienne, Ben voilà ce qui s'est passé, quoi. Et c'est à ce moment-là qu'elle a compris ce qui s'était passé. Alors que jusque-là, elle pensait que c'était elle-même qui était inadéquate, qui n'avait pas fait son boulot, et que c'était juste qu'on la traîne plus bactère. Elle a seulement ouvert les yeux. Et sa démarche a été de venir nous rencontrer et de dire non, pas de procès, mais moi, je veux qu'on reconnaisse ce qui s'est passé. Et avec l'autre cercle, on est en train, avec cette entreprise, on a rencontré le chef du personnel de la filiale, le chef de personnel du groupe, et ça récalcitre. Mais c'est une grosse entreprise qui a signé une convention pour la diversité, quoi. Diversité, voilà. Et on est en train d'essayer de les tacler sur ce sujet-là, mais on a affaire à forte partie, c'est-à-dire qu'ils n'arrivent pas à reconnaître ce qui s'est passé. Voilà. En tout cas, que les gays, une lesbienne en prise à la lesbophobie au travail n'a aucun soutien.
Je voudrais revenir justement parce que c'est ce qu'il y a de plus douloureux de voir que les lesbiennes n'ont aucun soutien, surtout de la part des femmes. Parmi les manifestations de la lesbophobie et de l'hétérosexisme, c'est d'abord bien sûr la présomption de l'hétérosexualité à tous les niveaux. C'est le discrédit jeté sur les personnes non hétérosexuelles. Et pour les lesbiennes, bon, on a des témoignages de calendriers de femmes nues dans les vestiaires, de faux lapsus où on appelle monsieur, de plaisanteries salaces, grivoises. Ça va aussi aux menaces et on a eu quelques cas de violences physiques. Mais une des manifestations favorites de l'hétérosexisme et de la lesbophobie, c'est la dévalorisation de la sexualité entre deux femmes. Alors, cette dévalorisation, et je pense que tu l'as déjà vu, ce que tu disais tout à l'heure, ça se traduit soit par une dissolution dans une affectivité diffuse, soit par une assimilation à l'univers pornographique. En fait, quand l'homme se projette dans la relation à trois, c'est fantasmé. S'il en est absent, c'est ridicule. Et l'outing pour les lesbiennes en milieu de travail, c'est une menace permanente et elle s'ancre dans l'hypersexualisation des lesbiennes. En fait, les lesbiennes ont peur, et à juste titre, de n'être vues qu'à travers le filtre de la sexualité. Et Deledios, dans une étude, avait bien analysé l'impact de cette hypersexualisation. En fait, c'est très pervers parce que ça va pousser les femmes hétérosexuelles à se désolidariser à cette image négative à laquelle elles ne veulent pas être associées. Et là, on voit bien que l'hétérosexisme, la lesbophobie, a pour fonction de réaffirmer les normes, de renforcer la naturalité, de dire ce qui est acceptable, ce qui est désirable, ce qui est une bonne sexualité, etc. Et ça, selon les normes, bien sûr, masculines. Et je crois que cette absence de solidarité des femmes hétérosexuelles avec les lesbiennes va se chercher dans cette peur d'être hyper sexualisée. Parce que, en fait, si on regarde en entreprise, les femmes hétérosexuelles et les lesbiennes, en grande partie, vivent les mêmes discriminations. Qui les enferme où elles sont enfermées dans le même système de domination, et il y a quand même un manque de solidarité.